CFM Cahors, le mag.
Bonjour et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Les tours jumelles ne seraient qu'en fait orchestrées par le gouvernement. L'homme n'a jamais marché sur la Lune, il a été tourné en studio. Et que dire effectivement du vaccin qui est une grande mascarade pour éliminer une majorité de la population? Eh bien voilà, ça c'est ce que l'on appelle des théories du complot. Alors, nous avons notre invité qui lui a écrit un livre sur le complotisme en général. Il s'appelle Julien Cueil, il est professeur agrégé de philosophie et c'est notre invité pour nous parler de ce livre sur le complotisme. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Lecture à voir, mais alors attention, c'est un sujet qui est quand même plus important, ce n'est pas un roman comme les autres, c'est plutôt un essai de Julien Cueil qui parle du symptôme complotiste aux marges de la culture hypermoderne. Bonjour Julien Cueil.
Bonjour.
Alors, le symptôme complotiste, je pense que là vous êtes en plein dedans. Est-ce que ce livre était prévu avant ou est-ce que c'est suite à tous les événements que nous vivons?
Non, pas du tout. Il était déjà prévu avant. Simplement, bon, on a été rattrapé par l'actualité, mais je dois dire que bon, depuis pas mal d'années, finalement, c'est dans le paysage. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment récent, même si actuellement, vu le contexte sanitaire, on en parle beaucoup. Mais c'était déjà un petit peu le cas avant. Voilà, c'est un mouvement de fond.
Alors, il faut comprendre que c'est d'une manière, comment dirais-je, d'un angle plutôt philosophique que vous apportez dans ce livre.
Alors, c'est d'un angle professionnel d'enseignant. Je suis enseignant, je suis professeur de lycée à Montauban. Et c'est ça l'origine de mon travail. C'est que j'ai été confronté quotidiennement, de par mes relations avec les élèves de lycée, à ce phénomène. Et j'ai pris vraiment la mesure de l'ampleur des dégâts, je dirais, parce que réellement, c'est très, très implanté. Et j'ai été très, très surpris d'entendre certains propos dans la bouche des lycéens de terminale et de première, et voilà, j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu explorer le terrain avec une approche sociologique et en même temps un petit peu orientée par la psychanalyse aussi.
Quel genre de propos, par exemple, les jeunes ont pu de la part des jeunes, ont pu vous marquer?
Alors, les propos, bon, actuellement, évidemment, les choses tournent plus autour du Covid, bien sûr, mais avant ça, on avait déjà des grands thèmes qui reviennent de façon très, très insistante. C'est-à-dire qu'il y a le 11 septembre, qui est un peu la mère de toutes les batailles, hein, c'est l'origine, on va dire, du complotisme du 21e siècle, forcément. Et ça reste très ancré, même chez des jeunes qui, finalement, n'étaient pas nés, hein, puisqu'ils ont 18 ans aujourd'hui, mais qui connaissent... Enfin, qui ont vu des vidéos, bien sûr, complotistes à ce sujet.
L'homme sur la Lune aussi.
L'homme sur la Lune, sans surprise. Les Illuminati, très très présents dans leur culture, en fait. C'est une culture jeune, au sens large, parce que la jeunesse, maintenant, va jusqu'à un âge assez avancé, finalement. On trouve ça dans le rap, on trouve ça chez pas mal de... Enfin, dans les réseaux sociaux, bien sûr.
Comment vous pouvez expliquer que malgré les preuves que l'on peut apporter et qui sont plutôt factuelles, ces idées tiennent encore la route et même ont de l'endurance?
Et, bah, je dirais, c'est justement peut-être à cause de ça que ces idées fonctionnent et ont autant de succès. Je pense qu'on vit dans une société très très rationaliste, forcément. Hein. On est une société qui est marquée par la science, par la technologie, par des progrès énormes au niveau de la connaissance et par surtout la surabondance d'informations. On est dans une société de l'information. Et paradoxalement, cette information étant finalement trop, trop abondante, on ne peut pas la trier, on ne sait plus quoi en faire et on est devenu totalement incapable de la vérifier. Et par conséquent, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense que c'est l'origine du complotisme.
Alors le complotisme, ça date depuis... la nuit des temps, on a envie de dire. Depuis quand ça prend une valeur, on va dire, importante? Est-ce que c'est... Si j'y apporte mon analyse personnelle, je dirais que c'est depuis la venue des réseaux sociaux. Oui ou non?
Je ne peux pas donner une réponse unique, là, parce que c'est un problème compliqué. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question, et donc, il y a différentes lectures. Hein. Disons que si on a une lecture... Ça dépend comment on prend les choses. Si on a une lecture sur le temps long et qu'on regarde simplement le phénomène de la rumeur, par exemple, on voit effectivement, comme vous dites, c'est vieux comme le monde. Hein. On a ça dans des sociétés même orales. Par exemple, en 1789, où le phénomène de la Révolution française a été déformé, a donné naissance à une terreur chez les populations illettrées qui entendaient parler de ça. Bon, évidemment qu'aujourd'hui, c'est un peu autre chose. Alors, d'un côté, on va dire, c'est la continuité. D'un autre côté, il y a quand même des spécificités. Moi, il me semble qu'il y a un phénomène particulier aujourd'hui qui tient bien sûr aux réseaux sociaux, mais pas seulement, qui tient, je pense, à une certaine forme de rapport au savoir. Ce que je disais tout à l'heure sur l'information, le fait qu'on soit saturé d'informations fait que, précisément, on va avoir un complotisme de plus en plus fort.
Alors, c'est quand même paradoxal. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, ou même, quand vous prenez l'exemple de 1789, à ce moment-là, l'information avait du mal à circuler. Le savoir avait du mal à circuler. Maintenant, on donne le savoir à tout le monde. Tout le monde sait quasiment lire, à peu près. Et finalement, ça tient encore ce genre de théorie du complot. À quoi vous l'expliquez, Julien Cueil ?
C'est vrai. Bon, c'est... Comment dire, souvent on compare ça à un sablier, on dit auparavant l'information était rare en fait et il y avait une demande très forte d'information, de savoir. Aujourd'hui c'est l'inverse, l'entonnoir s'est renversé et donc on est abreuvé en permanence par ces flux informationnels. Et bon, les jeunes en fait, quand on discute avec eux, j'ai essayé de savoir comment ils fonctionnent, c'est vraiment rentrer dans leur mode de vie. On voit qu'ils vont pas chercher l'information parce qu'elle leur parvient. Elle leur parvient essentiellement par les réseaux sociaux. On a des générations qui sont sur Internet, bien sûr, même s'ils regardent encore un petit peu la télé avec leurs parents. Mais bon, globalement, ils ne font pas la démarche qu'on faisait peut-être à une époque, quelques dizaines d'années, où on allait voir une encyclopédie, etc. Ils vont même pas chercher sur les moteurs de recherche, finalement. Ils prennent ce qui arrive et voilà. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Quel tri ils vont faire? C'est vrai que paradoxalement, on est peut-être trop savant.
Mais alors, est-ce qu'au final, c'est pas une forme de contestation, de révolte, de quelque chose d'anti-gouvernement? Par exemple, d'anti-autorité, tout simplement. C'est dit par les autorités, par le gouvernement, donc forcément, c'est pas vrai parce qu'on nous ment.
Oui, absolument. Bon, ça c'est évident. Bon, ça concerne pas seulement les jeunes, ça concerne toutes les tranches d'âge. On le voit très fortement avec la situation d'épidémie. Peut-être que, je dirais, il y a une dimension politique. Alors très souvent, les experts qui interviennent sur le complotisme, qui s'intéressent à ça, ils voient uniquement la dimension politique. C'est-à-dire, bon, on assimile ça à des mouvements idéologiques, hein, comme ce qu'on appelle les extrêmes, donc extrême gauche, extrême droite, parfois confondus. C'est une lecture, c'est vrai, mais il me semble que ça n'épuise pas le sujet. Je pense que ça va plus loin, notamment de la part des jeunes qui sont en fait pas tellement politisés, en fin de compte, qui n'ont pas une démarche idéologique, pas du tout. Ça, je crois que c'est une grosse erreur de la part de beaucoup de commentateurs. Ils ne connaissent pas forcément la culture adolescente et ce n'est pas du tout une génération qui est prête à adhérer à des idéologies. Au contraire, hein, ils sont très distanciés. Ils peuvent saisir une bribe, à un moment donné, surfer un peu sur un motif et puis ça va changer très vite. Ce n'est pas un positionnement dur, quoi. On n'est pas sur une démarche d'engagement, en fait. Et du coup, oui, les jeunes sont en révolte, ça c'est clair. Ils sont en révolte contre l'État peut-être, mais aussi, à mon avis, il y a beaucoup de révoltes par rapport au savoir, justement. Le savoir, c'est devenu la valeur principale dans nos sociétés d'aujourd'hui. Tout tourne autour de ça. C'est un peu le symbole du pouvoir, en fait, aujourd'hui, c'est le savoir. Et finalement, même le gouvernement lui-même est presque subordonné aux scientifiques, on le voit très bien avec le Covid, c'est la science et c'est le savoir qui est en haut de la pyramide. Et c'est ça qu'on va contester.
Mais est-ce qu'ils y croient vraiment? Parce qu'au final, quand on y pense, comment on peut... par exemple, je sais que sur Facebook, il y a un groupe de personnes qui sont persuadées que la Terre est plate. Il y a des images quand même, il y a des photos satellites qui montrent bien que la Terre est ronde. Thomas Pesquet qui est dans l'espace nous le prouve, à moins qu'il soit dans un studio enfermé et qu'il joue la comédie. Et des fois on se demande, mais est-ce que ces gens y croient vraiment? Et si oui, pourquoi malgré toutes ces preuves? C'est ça qui est incroyable, non, Julien Cueil?
Oui, mais d'ailleurs Thomas Pesquet, effectivement, il a aussi fait l'objet d'une théorie du complot dans laquelle on dit qu'il est lui-même berné par une mise en scène dont il serait victime. Bon, bref, tout est possible, hein. On a vraiment des choses complètement abracadabrantes dans tous les sens. Comment dire? C'est justement parce que c'est fou, en fait, mais c'est ça qui est séduisant. Je pense qu'on est devenu tellement rationnel, tellement cartésien, tellement scientifique aujourd'hui, que quelque part c'est étouffant. Parce qu'on a étouffé en fait l'imaginaire. L'imaginaire est un peu corseté par cette contrainte hein, de la société du savoir. Et il faut que ça sorte, il faut que ça se libère. Et c'est une façon, bon, c'est peut-être pas la meilleure. Je reconnais que c'est mieux de faire de l'art ou de la créativité, bon, dans d'autres domaines. Mais il y a cette dimension. Et ça, je pense que c'est pas assez souligné, une dimension vraiment imaginaire, fantasmatique, parfois même drôle. Enfin, drôle, c'est pas toujours drôle, hein, les théories du complot, mais y en a qui sont quand même comiques, volontairement ou pas. Il y a un côté un petit peu, ça me fait penser aux manifestations de 68, en fait, ce côté potache, avec aussi une dimension. C'est pas seulement politique au sens politicien, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un côté contestation étudiante. Voilà, il y a cet aspect-là, même chez des gens plus âgés. Hein.
Comment on imagine. C'est assez incroyable en fait, parce que malgré toutes les preuves, malgré certaines choses, enfin, je vais essayer de vous tourner la question autrement. Plus précisément, on imaginait par exemple que le vaccin c'était des antennes 5G posées par Bill Gates. On dit aussi que la Covid s'est inventée pour que justement c'est faire le tri et enlever la population la plus pauvre. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi des trucs. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe, non?
Oui, plus c'est gros, plus ça passe. Il y a ce côté un peu de farce. Et est-ce que les gens y croient? Je pense qu'ils y croient pas forcément de mordicus. Hein. C'est pas une croyance. On est plus dans ce régime de la croyance. On le voit d'ailleurs même avec les croyances religieuses sur un autre plan. Hein. Moi, je fais la comparaison entre les deux parce que je pense qu'il y a ce côté aussi. Il y a aussi parfois une recherche un peu ésotérique, un peu spirituelle, dans un sens très large,
Qui est à la mode en ce moment aussi.
qui est à la, ouais, qui est, voilà, qui est une tendance de fond aussi de notre société, qui explique aussi peut-être que d'ailleurs certains milieux religieux soient particulièrement touchés par le complotisme. Hein. Mais au-delà de ça, chez des gens qui sont en recherche de merveilleux, en un sens très large, ça peut apporter quelques réponses. Bon, il y a à travers les Illuminati, par exemple, on se souvient du roman de Dan Brown, Da Vinci Code, hein, qui avait un succès planétaire vraiment phénoménal, qui est un roman complotiste, qui utilise tous les ingrédients du complotisme, sur un mode fictionnel, mais bon,
Ça
les
reste du
gens,
complotisme.
il a été obligé quand même de préciser que c'était une fiction, l'ambiguïté demeure. Est-ce que les gens le prennent vraiment au premier degré? Bien sûr, il y a toujours des gens naïfs, mais je pense que c'est plutôt une forme de jeu, souvent, où on est entre la fiction et la réalité. On ne peut pas dire qu'on y croit, ni qu'on n'y croit pas, on est entre les deux, et c'est ça qui donne du plaisir, en fait. C'est le plaisir du complotiste, c'est de jouer à y croire à moitié, en fait.
Votre livre, Julien Cueil, Le symptôme complotiste, est-ce qu'il n'est pas fait justement pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus? C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas les complotistes qui vont venir le lire.
Non, mais moi, il me semble que on s'y prend mal, en fait, la façon dont les choses sont traitées. Bon, moi, je suis enseignant, donc bon, éducation nationale, évidemment, on est très très vigilant sur ces problèmes parce que ça peut déraper. Je pense qu'on s'y prend mal parce que on est souvent dans une posture justement très maître d'école, voilà. Nous, on a des consignes de pas laisser passer certains propos, voire carrément d'empêcher les prises de parole. Bon, de cadrer énormément. Et puis, dans la société en général, on voit la façon dont les experts s'adressent aux complotistes en disant, mais en fait, ils n'ont pas compris, il faut les rééduquer. Il y a ce côté, bon, on va vous expliquer, enfin, vous n'avez pas bien compris, on va vous expliquer. Ce côté très paternaliste. Et...
peut-être ça qui gêne aussi.
Je pense que ça contribue à entretenir le phénomène, en fait.
Ils ont peut-être peur, enfin, ça entretient le fait qu'on nous prend pour des cons, peut-être, excusez-moi l'expression.
Oui, parce qu'il y a. Il y a une espèce de miroir, comme on dit, le complotiste, il est contre le pouvoir, mais il est tout contre aussi. Il y a une fascination réciproque. On le voit très bien à certains moments. Bon, le fameux épisode, alors sur les gilets jaunes, je vais parler avec beaucoup de prudence parce que je pense pas qu'on puisse assimiler ce mouvement à du complotisme. Mais on peut pas nier non plus qu'il a été traversé ou certains éléments parmi le mouvement ont été concernés par ça, plus ou moins. Hein. Et on a vu qu'il y avait une fascination réciproque entre, d'un côté, bon, ce mouvement populaire qui portait une contestation, et de l'autre, finalement, le pouvoir, le gouvernement, et peut-être même aussi certains médias qui bon, c'est ce qu'on appelle une escalade symétrique hein, dans la théorie des systèmes, c'est-à-dire que chacun campe sur ses positions et se fait un peu le reflet de l'autre, et... comment dire, on joue un rôle, quoi. Il me semble que ça, c'est pas la bonne manière de traiter, parce que ça conduit précisément à un malentendu, à creuser le malentendu. Il me semble que, plutôt que d'essayer de corriger les complotistes, de les persuader qu'ils ont tort, bah, il faudrait, en fait, leur laisser la parole. Il me semble que ça serait plus judicieux que de leur couper le micro, comme on a tendance à le faire. Mais précisément pour combattre ces dérives. Et peut-être aussi, eh bien, ça leur couperait l'herbe sous le pied, parce que bon, ils passent pour des martyrs, hein, en étant interdits d'antenne dans la plupart des grands médias, c'est vrai aussi. Donc, bon, ce qui nous renvoie, finalement, c'est complexe. Je pense qu'il faut aller au-delà des apparences. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de creuser un peu l'inconscient du complot.
Comment vous expliquez, ça sera la dernière question, la défiance justement sur que les gens ont maintenant sur les médias qui étaient de référence avant. Avant, on ne jurait que par justement les grands journaux, et maintenant on les appelle, on dit qu'ils sont à la botte du gouvernement et les journalistes égales collabos. Et on voit en même temps surgir sur Internet des sites dits de réinformation.
Oui, mais là, il me semble que c'est justement, là, il y a un symptôme, il y a quelque chose à creuser. On ne peut pas se contenter de rejeter le complotisme d'un revers de main en l'empêchant de parler, parce que sinon, il va se tourner justement contre les médias en disant, vous voyez bien que c'est une dictature. Bon, il me semble que le fact-checking n'est pas très judicieux, en fait. Pourquoi ? Enfin, en tout cas, certains organes de fact-checking, maintenant c'est devenu généralisé dans tous les médias, en fait, ça donne l'impression que y a une seule vérité, qu'il n'y a pas de controverse possible, que la vérité est factuelle, qu'il suffit d'avoir la bonne référence pour terminer le débat. Or, dans la plupart des cas, les choses sont beaucoup plus complexes sur des sujets politiques, économiques ou même sanitaires. On a bien vu hein, en 2020 que la vérité scientifique bon, elle-même était complexe à saisir. Bon, les chercheurs sont toujours en recherche, c'est leur métier. Peut-être que, s'il y a un côté positif au complotisme, c'est pas un hommage que je leur rends, mais disons qu'indirectement, ils contribuent à nous montrer qu'il y a un problème. Il y a un problème peut-être effectivement dans la façon actuelle de faire du débat, ou de ne pas en faire, et peut-être qu'ils nous disent quelque chose. Ils le disent maladroitement, évidemment, d'une façon souvent inacceptable, mais ils nous disent quelque chose, ils nous renvoient un miroir déformant de notre façon de traiter l'information.
Eh bien, je vous invite à continuer le débat chez vous avec ce livre de Julien Cueil, Le symptôme complotiste aux marges de la culture hypermoderne. Vous le dites si bien, une lecture clinique nourrie par la démarche anthropologique et les concepts de la psychanalyse. Donc le but, ce n'est pas de démonter le complotisme, c'est de le comprendre en fait, c'est ça. Hein,
c'est ça, exactement.
Voilà. Mais c'est aux éditions RS. Merci Julien Cueil de nous avoir reçus.
Merci à vous.
CFM.
CFM Radio.
CFM Cahors.
Les Cranberries dans le mag sur CFM Cahors. Concert ce jeudi 7 octobre, donc Black Boy, un spectacle à trois voix. C'est un BD concert tout simplement où vous avez un comédien, un musicien et puis un dessinateur qui va raconter l'histoire en même temps sur écran géant en le dessinant. C'est un spectacle qui est à entrée gratuite dans le cadre de la semaine des étudiants. Sinon, l'entrée est à 5€. Mais vous avez aussi également la possibilité de gagner vos places maintenant si vous m'appelez sur CFM Cahors au 05 65 47 97 01 maintenant si vous nous écoutez dans la diffusion de midi. 05 65 47 97 01 05 65 47 97 01 vous nous appelez pour essayer de gagner vos places au Doc de Cahors de ce jeudi 7 octobre dans Black Boy. Je dis bien pour ceux qui nous écoutent ce midi puisqu'il y a rediffusion tout à l'heure à 17h et à 21h30 et puis sinon écoutez également en podcast sur CFM Radio .fr. Dans un instant, le journal, vous restez avec nous bien entendu.